Donc moi je m'appelle Eve, je suis animatrice à Radio Bram FM. Il y en a certains et certaines d'entre vous que j'ai déjà vus et que j'ai déjà interviewés. Donc le documentaire que vous venez de voir, il a été réalisé par Germain Bachet, Manon Cossignac et Florent Barallon. C'est un documentaire qui a été diffusé dans le cadre des Femmes s'engagent. Donc Benoît, il a expliqué un petit peu tout à l'heure, hein, Les Femmes s'en mêlent, c'est un festival qui a été créé en 97 pour répondre à des questions d'inégalité entre les hommes et les femmes dans le milieu du spectacle. Et Les Femmes s'engagent, c'est donc un dispositif qui a été mis en place pour permettre des moments comme celui-ci de projection, de débat et de discussion. Donc aujourd'hui, avec nous, pour parler de la question des femmes dans le milieu du spectacle, il y a Joanne Chabassier, qui est docteure en sociologie, formatrice à l'école en travail social Polaris Formation, et tu es chercheuse au sein de l'association Medication Time. Tu travailles notamment sur les questions de genre et du travail. Est-ce que tu veux bien déjà peut-être rappeler ce qu'est Medication Time et voilà, nous faire un retour de ce que tu as vécu pendant cette projection?
Oui, alors merci pour cette invitation. Medication Time, bah pour faire court, alors certaines d'entre vous certainement connaissent peut-être cette association parce qu'en fait elle est locale. C'est une association qui met, on va dire, en priorité l'enjeu de l'autonomisation des personnes qui font partie de cette association-là. L'idée, c'est... alors il y en a certains qui sont amenés dans l'association plutôt par le biais justement de la musique et de la pratique musicale. Et c'était par exemple se dire que parfois, ils pouvaient avoir des difficultés à produire, réaliser, sortir des objets, etc. Et donc c'était avoir la main et la possibilité par nous-mêmes, par nos ressources, d'avoir accès à ces activités-là de production. Mais en fait, ça s'est étendu globalement parce que la réalité des personnes faisait que dans des situations où globalement on était plutôt tous un peu pauvres, en tout cas en termes d'appui et de relais pour arriver à réaliser ce qu'on voulait faire, bah en fait on l'a développé un peu sur tous les aspects de la vie, c'est-à-dire quand on veut se déplacer et que nos voitures elles sont pas en capacité de rouler, on va les réparer. Quand on a besoin de construire des maisons, on va essayer de s'autonomiser dans la manière dont on va récupérer du bois et donc couper des arbres et donc faire des planches pour faire nos maisons. Et on l'a aussi fait pour l'école. C'est-à-dire qu'on a dit, des fois, dans notre expérience à l'école, on n'a pas forcément parlé ou envisagé les sujets qu'on avait envie de traiter, nous. Et donc, on va aussi s'autonomiser dans la production de connaissances, de savoir.
Et vous questionnez aussi, évidemment, la place des femmes dans la société.
Exactement. C'est notamment ça où on se dit, à l'école, on ne l'aborde pas forcément énormément. Et donc, du coup, on s'est dit qu'en fait, on pouvait aussi s'atteler à ces questions-là. Et souvent, on va aussi aller piocher dans les collectifs qu'on rencontre pour se mettre un peu en chantier ensemble. Et donc, on a été dans des structures aussi localement qui avaient envie de se questionner sur la question de l'égalité femmes-hommes pour le mettre en chantier ensemble. Voilà.
Alors, je vais présenter Eugénie et après, on reparlera de votre ressenti par rapport au documentaire. Eugénie, tu es auteure, compositrice, interprète. Tu étais hier soir sur la scène des Lendemains qui chantent dans le cadre des soirées plurielles mises en place donc par la SMAC. Ton parcours personnel reflète à bien des égards ce qui est dénoncé dans ce documentaire qu'on vient de voir. Comment est-ce que tu as ressenti, c'était la première fois que tu voyais le documentaire, qu'est-ce que ça t'a fait?
Alors déjà, merci de m'inviter. En regardant ce... Il faut que je parle plus fort ? Ok. Oui, c'est vrai que c'est pas amplifié, j'avais oublié. Alors, je me suis reconnue, évidemment, dans plein d'aspects de ce documentaire. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était tous ces chiffres de représentation. C'est vrai que tant qu'on sort pas les chiffres, on n'arrive pas à se rendre compte vraiment de l'ampleur du problème.
T'avais conscience, toi, de ces chiffres ? Est-ce que tu as eu l'impression d'une réalité ou tu as eu l'impression de découvrir quelque chose ?
Je ne le découvre pas, mais j'en vois l'ampleur et c'est vrai que ça fait un peu peur. Et en même temps, ça fait presque 10 ans que je fais ce métier. Et j'ai vu aussi l'évolution. Là, ce qui est juste un petit peu frustrant, c'est de voir qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je tiens à dire que quand même, je sens une profonde évolution, que ce soit déjà juste à la base, donc la composition, l'écriture, parce que moi, j'évolue beaucoup dans les studios. Mais aussi, je crois, j'ai l'impression en tout cas, à des postes importants comme dans les labels DA, directeur artistique, ou manager, il y a de plus en plus de femmes et c'est hyper rassurant, en tout cas pour les artistes comme moi qui ont besoin de sentir une bienveillance et une sororité pour pouvoir se sentir à l'aise aussi de s'imposer, en fait, tout simplement.
Alors, pendant qu'on est dans les présentations, je vais donner le micro à Julie Knebel, qui fait partie de la structure Ruissel, qui est donc fraîchement créée et qui a été mise en place sur le territoire justement pour donner plus de place aux femmes artistes sur le territoire. Julie, est-ce que tu veux bien représenter la structure Ruissel et nous en parler un petit peu, s'il te plaît ?
Oui, merci beaucoup. Du coup, Ruissel a été créée à l'initiative au départ. En fait, c'est Marie Renard, la déléguée aux droits des femmes, qui a engagé une discussion sur le besoin et comment on pouvait épauler les femmes artistes sur le territoire de Corrèze. Donc, il y a eu des réunions et il y a eu une volonté d'aller plus loin et de créer quelque chose pour répondre à ces besoins qui ont commencé à être identifiés sur la Corrèze. Et dans ce sens, Merveilleux Prétexte s'est proposé pour porter ce projet-là. Et donc Hélène Freys, qui est ici, qui représente l'association Merveilleux Prétexte, du coup, a eu la volonté de nous embaucher avec Monique de Ronce. Donc moi, je suis artiste plasticienne et Monique est musicienne, compositrice. Peut-être que tu te présenteras mieux que moi, je te passe le micro.
Bonjour, j'ai rejoint donc effectivement depuis peu avec Julie donc cette structure que nous sommes en train de créer qui s'appelle donc Ruissel. Donc je suis chanteuse musicienne, compositrice et autrice d'un groupe qui s'appelle Mona Nunes. Et effectivement, là en tout cas, ce que on en parlera après, mais j'étais très en colère en fait à la fin du documentaire.
Oui, bah, justement, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous faire choses, un retour de ce que vous avez ressenti justement. Vous parlez de colère. Est-ce que vous avez découvert des choses? Qu'est-ce que vous avez? Par quoi avez-vous été traversée là en regardant ce documentaire?
Alors nous, on a quand même un contexte particulier puisque nous vivons en Corrèze, qui est quand même un pays assez rural. On le sait. Alors c'est pas forcément un problème. Ça peut être une force. Mais effectivement, parfois, les arts et la musique n'est pas forcément suffisamment peut-être représenté ou pris au sérieux, peut-être aussi. Et être une femme là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Souvent, on va être relié. Je vous donne un petit... oui, merci beaucoup. Une petite anecdote. Donc, on arrive avec... un de mes groupes sur place, et souvent on va me dire « Ah, mais t'es la chanteuse !» Et ça, c'est par exemple quelque chose sur le... Enfin voilà, c'était la représentation féminine musicale, ça va être une chanteuse. Et c'est vrai que maintenant, quand j'arrive avec ma housse, soit sur le dos, soit la basse ou la contrebasse, c'est quelque chose de bête, mais je me sens un peu plus forte, en fait, parce que je ne suis pas que la chanteuse, je suis aussi musicienne. Mais du coup, oui, c'est pas toujours évident. On est très peu en tout cas de musiciennes finalement en Corrèze. Il y a plus d'hommes musiciens. Je suis plus entourée, mais là, notre groupe de compo, on est 6 et il y a 2 musiciennes, donc il y a 4 garçons. Mais je pense qu'effectivement on est sur le bon chemin, mais on est obligé d'en faire 2 fois plus que les autres, que les autres. Donc ça, c'est un petit peu difficile, la maternité, tout ça. Moi, j'y suis arrivée tard, j'ai 47 ans, et je suis artiste émergent à 47 ans. Voilà, c'est pas évident, parce que j'ai eu une vie avant de maman.
Et on va parler justement de la question, on reviendra après sur la question aussi du temps, hein. Comment est-ce qu'on partage le temps justement en tant que femme aussi, dans les contraintes familiales, sociales, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du public, merci pour la présentation de Ruissel, est-ce qu'il y a d'autres personnes du public qui souhaitent réagir justement à chaud après la projection? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite peut-être faire part de son expérience ou de ce qu'il a vécu en regardant ce documentaire?
Thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Fernandez, je suis dans la structure SOA Artistique et je suis manager artistique. J'avais déjà vu à la cantatrice Chum, mais l'épisode numéro 2 pour les professionnels de la musique, autre que les artistes. Et du coup, bah, je suis pas surprise par ce que j'ai vu ce matin. Mais j'avais envie de dire que oui, les choses changent, j'évolue dans le bon sens et c'est enthousiasmant. Voilà.
Quelqu'un d'autre ?
À nouveau Julie Knevel. Donc je reviens sur le fait que je suis artiste plasticienne et les enjeux en fait sont assez différents pour nous dans les arts plastiques. Et on a quand même une invisibilisation de nos pratiques. Et on le voit bien dans le documentaire. Un documentaire comme ça, ça n'existe pas dans le champ des arts plastiques. On n'a pas ça. Et on n'est pas structuré comme vous pouvez l'être dans le spectacle vivant. Donc l'idée aussi, je reviens sur Ruissel, c'est d'aller chercher en transversalité par cette structure d'être à l'appui des différents champs artistiques et de prendre exemple sur des choses qui ont été faites par exemple dans le spectacle vivant. Mais à l'inverse, par contre, je pense que dans le champ des arts plastiques, on a beaucoup plus de femmes qui sont présentes, qui sont à la tête des structures. Et ce serait hyper intéressant. Je ne crois pas qu'on ait des chiffres là-dessus, mais ce serait hyper intéressant d'avoir des études comparatives, peut-être. Et aussi, sur le territoire de Corrèze, on se rend compte, en tout cas là, en discutant et en se mettant en relation entre femmes artistes, qu'il y a une majorité de femmes artistes plasticiennes, qu'on a l'impression, en tout cas, qu'il y a plus de plasticiennes que de plasticiens. Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur le documentaire. C'était pour moi très, très touchant et très émouvant de nommer cette précarité et de dire, de le voir écrit et de l'entendre dire. Parce que oui, en fait, on est dans des situations, je pense, toutes très précaires et qu'on essaye de s'en sortir comme on peut. Et que bon, le statut de l'intermittence, même s'il n'est pas idéal, il permet une sécurité qu'en tant que plasticien, plasticienne, nous n'avons pas. Et voilà, et on se bat pour professionnaliser nos pratiques. Et c'est vraiment bien de le voir écrit et de le voir dit, et d'étendre ça aussi au champ des autres arts.
Alors, en parlant de précarité, ce documentaire et le deuxième et le troisième qui en fait ne sont pas produits, hein, c'est entièrement fait bénévolement. Ça, c'est quand même important de le souligner aussi. Donc ça a dû être fait sur des temps de chômage ou de stand-by, en tout cas de profession. Peut-être, Joanne, on peut commencer ce débat, en tout cas sur la question des clichés qui semblent être le début et la fin un peu de ce documentaire sur les représentations qu'on a et en quoi est-ce que ces représentations qu'on a de la femme et de l'homme jouent un rôle majeur en fait dans le milieu du travail, donc tous les milieux, mais là en particulier dans le milieu de la scène.
Oui, à un moment il a été nommé le terme d'arborescence. Et dans ce terme d'arborescence, il y a effectivement cette idée que, en fait, il y a une forme de continuum qui serait liée à l'âge de l'enfance et tout au long de la vie. Mais en fait, il y a aussi un continuum entre les différents espaces sociaux. C'est-à-dire là, ce qui est présenté par rapport au milieu artistique et culturel, en fait, est tout à fait transposable dans d'autres espaces. D'ailleurs, c'est intéressant puisque il a été nommé à quel point, en fait, les premiers rapports ont un peu fait électrochoc. Dans le sens où la police et l'armée se retrouvaient avec plus de dispositions. Et alors là, c'est là où il va falloir mettre des nuances, des dispositions légales. Ça ne veut pas forcément dire que ça a éradiqué l'existence du sexisme dans l'armée et dans la police. Hein. Et du coup, ça veut dire qu'il faut penser en fait, dans une vision un peu 3D, c'est-à-dire il y a tout au long de la vie, donc ça va être de ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui vont décider de se mettre à la musique ou pas, Et rentrer dans une activité ou aller voir des spectacles, etc. Donc là, il faut s'imaginer qu'il y a évidemment la question du genre, mais il y a d'autres enjeux, notamment des enjeux de classe, etc. Donc ça, c'est-à-dire que la question de la représentation et la question du modèle qui va venir qu'on va s'investir dans une activité, elle se joue déjà là. Et évidemment, bah, si à un moment, il y a eu l'expression en fin de circuit, c'est qui va être sur scène et va occuper quelle va être sa manière d'être, sa manière d'agir, sa mise en scène en fait, à quel théâtre social cette personne-là, artiste, va participer. Et donc du coup, bah, forcément, l'un entretient l'autre, c'est-à-dire les enfants qui vont aller les voir vont eux-mêmes rentrer dans cette mécanique-là. Et le fait qu'en fait, on ait des espaces sociaux autour qui mettent en place la même mécanique, les mêmes représentations, bah, évidemment, ça s'auto-entretient. C'est quand on a un modèle, quand on est face à un modèle qui nous est décrit à l'école et qu'il est conforté à la maison et qu'il est conforté à la télé et qu'il est conforté au spectacle qu'on va voir, ça ne fait que renforcer le pouvoir en fait qui va exercer, la violence même on pourrait dire, qui va exercer sur les individus. Là où je mettrais peut-être une petite nuance, c'est que la fin répond au début par l'angle de l'institution. Comme la clé, en fait, qui serait l'institution, la règle, la législation, etc. Bon, nous, dans notre quotidien, on voit bien qu'en fait, c'est aussi travailler sur la finesse des relations, des constructions, des liens, des interactions qui se passent entre les personnes et beaucoup des représentations. La question du goût, la question du talent, en fait, c'est pas quelque chose qui coulerait dans les veines. Ou alors ça coule dans nos veines parce qu'en fait ça s'est tellement infusé depuis même les générations précédentes à notre naissance qu'effectivement ça en devient quelque chose qui apparaît naturel, mais ça ne l'est absolument pas. Donc penser que le levier serait par un exercice coercitif via les institutions, ce serait faire fi du fait que si on ne travaille pas les relations qu'on a les uns avec les autres et comment on les construit, on pourra mettre autant de règles, autant de menaces, de sanctions. Enfin voilà, dans les pays les plus autoritaires, ça n'enlève pas le crime. Hein, donc, bon, voilà, c'est la petite critique que je mettrais quand même de comment le début répond à la fin.
Sur justement ce biais de ce qu'on attend des femmes, ce qu'on attend des femmes sur scène, ce qu'on attend de la représentation des femmes sur scène, toi, Eugénie, comment est-ce que tu as vécu ça ? Parce que là, il y a quand même plusieurs fois la question des femmes qui disent, moi, quand je monte sur scène, je me sens comme une artiste, je me sens pas comme une femme. Et en même temps, il y a la question de, en tant que femme, elle dit, on a des seins, on a des cheveux, quand on monte sur scène, on est renvoyé à notre image de femme. Comment est-ce que toi, tu ressens ça ?
C'est une partie qui m'a beaucoup parlé dans le documentaire parce que ma carrière a commencé avec déjà beaucoup de violence sur mon image, en fait. J'ai commencé en faisant une émission de télécrochet qui s'appelait Popstar en 2013. Et j'avais un look qui était à peu près celui-là. J'ai un bonnet très masculin. Je n'étais pas beaucoup maquillée. Je n'étais pas ce qu'on appelait un stéréotype féminin. Et pourtant, je suis quelqu'un de très féminin. Enfin, je me sens féminine, personnellement. Et c'est marrant parce qu'on voit très vite dans ce genre d'émission, puisque en fait, le but, c'est un peu de faire une genre de représentation de la société, mais condensé, on voit très vite dans quelle case on va être placé. Et alors, c'est marrant parce que, voilà, moi, on m'a mise tout de suite dans la case de « Ok, fais partie du boys club ». Et par contre, de l'autre côté, il y avait le girls band qui se dessinait. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs trajectoires comme ça qui se sont faites. Et moi, en fait, on m'a mise toute seule au milieu d'un groupe de garçons jusqu'à ce qu'on me dise « Ok, Eugénie, on va en faire une star. Du coup, maintenant, il faut que tu sois une femme. » D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? On m'a fait un relooking. On m'a mis des parésies. On m'a mis en short. Alors, c'était d'un goût très fin. Je pense que mes parents ont regardé ça d'un drôle d'œil. Et moi-même, je ne savais même pas vraiment comment recevoir toutes ces informations parce que j'étais si jeune, j'avais 19 ans, que je savais déjà pas qui j'étais, qu'on était déjà en train de me façonner, en fait, à une image qui n'était pas moi, tout simplement. Et donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai fait un petit bout de chemin seul, en tout cas sans grosse structure derrière. Et je me suis approchée ensuite des réseaux sociaux. Et là, encore une fois, on me renvoie à mon image. Elle porte trop de rouge à lèvres. On parle pas on parle de mon talent, mais on parle sans arrêt, par contre, de la partie image.
Et en fait, soit je suis trop féminine, soit je suis trop masculine, je sais pas, en fait, c'est fatigant. J'arrive en maison de disques, on me fait plein de propositions, c'est génial, je sens que je prends de la valeur, parce que quand on te met de l'argent devant toi, t'as l'impression que tu prends de la valeur, ce qui est totalement faux, puisque en fait, on va te reparler de ton look avant même de te parler de tes chansons et même des messages de tes chansons, alors que je suis compositrice, j'écris mes propres textes, et il faut tout le temps que je le mette en avant, parce que sinon, c'est pas de ça qu'on me parle. On me parle de mon look, qu'est-ce que mon look raconte, qu'est-ce que j'essaie de raconter à travers mon look. Alors, c'est une première approche qui est intéressante, parce qu'en effet, on peut se servir de son look pour porter des messages, mais c'était pas par là que je suis rentrée dans la musique. Je suis pas rentrée dans la musique par mon look, je suis rentrée dans la musique parce que moi, j'aime chanter, j'aime être sur scène, j'aime les émotions, et moi, on me parle de la façade, donc c'est pas intéressant pour moi d'aborder le truc de cette manière-là. Je me suis ensuite... voilà, un peu éloignée d'Universal, du coup c'est avec eux que j'étais, pour faire mon chemin toute seule. Mais à ce moment-là, finalement, il y a eu une crise identitaire, puisque ça y est, je suis seule, maintenant, comment je me définis? Et ça a été un chemin extrêmement long, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait, que j'en fasse en fait une force. Toutes ces, on va dire, insultes. On va pas appeler ça des insultes, parce que sur le moment, en plus, on te fait penser que c'est des compliments. tu es très jolie, alors que toi, tu te présentes en tant qu'artiste, tu t'en as un peu rien à foutre, hein, on va pas se mentir. Mais t'as l'impression que ça va t'aider jusqu'au moment où tu lâches un petit peu, justement, ce vernis, et on te dit « Ah, mais du coup, tu veux plus trop montrer que t'es jolie, c'est dommage, parce qu'en fait, ça te vendait bien, ça. Ça te vendait plutôt pas mal. » Et aujourd'hui, je suis encore dans ce processus, pour être honnête. Par exemple, aujourd'hui, je viens sans maquillage. Hier, j'avais mon fond de teint, j'avais mon mascara, j'avais mes petits talons, et puis j'avais mon costume qui me donne un petit peu ce pouvoir. C'est un peu comme si j'enfilais mon costume d'héroïne et qui me donne envie d'être celle que je m'imagine, que je me fantasme. Mais pour être honnête, c'est une charge mentale. C'est une charge mentale, et hier tu m'as, enfin, on s'était fait cette interview dans laquelle tu m'as demandé si je me sentais femme ou artiste sur scène, et j'en ai toujours pas vraiment une réponse claire, puisque avant de monter sur scène, qu'est-ce que je fais? Je regarde à quoi je ressemble avant même de me demander qu'est-ce que je veux dire. Voilà.
Est-ce qu'il y a des réactions dans le public?
Merci.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ça?
Oui. Que bonjour, je m'appelle Rilke, je suis auteur aussi, chanteur, compositeur. Ce que je voulais dire à propos des femmes, c'est que grâce à mon épouse qui est aussi bien à l'écoute de la chanson, on s'aperçoit qu'en fait la poésie et l'imaginaire des femmes dans la chanson actuelle française est absolument extraordinaire. Et je trouve que, et c'est là que je suis stupéfait, en fait, des chiffres que l'on montre de ces femmes qui ne sont pas assez représentées, alors qu'en fait, elles ont un talent absolument hallucinant. Et quand vous écoutez des textes de je ne vais pas citer les artistes, mais... Mais franchement, c'est magnifique, et c'est, moi j'ai plus de frissons en entendant de la chanson faite par des femmes, par leur écriture en tant que femme, en tant que leur vécu, que leur direction artistique et leur musicalité qui est absolument franchement magnifique. Je les trouve inventives, créatrices, inventives. Elles font pas pareil que les mecs, et vraiment elles ont toute leur place, mais vraiment franchement waouh. Et encore un tout petit truc, pour les mecs c'est pas non plus facile, hein. Oui, il y a très peu de structures artistiques en Corrèze. Moi, j'ai beaucoup de mal. Là, j'ai fait un bel album. Donc maintenant, j'ai mon groupe. On travaille là pour la scène, etc. On sera prêt cet été. Mais on ne trouve pas non plus de structure artistique qui puisse nous aider Et tout seul, c'est très difficile. Voilà. Mais encore, moi, j'applaudis vraiment les femmes, vraiment magnifiques. Magnifiques. Texte magnifique.
Ça me fait penser à quelque chose, juste sur la question de... Je crois des femmes qui sont censées, mais ça c'est dans tous les milieux, qui doivent multiplier par 10 leur parce qu'il a été questionné la question du talent hein, dans le film, hein, le talent qui est le génie, hein, qui n'existe en fait pas. Et donc c'est le talent, c'est aussi cette capacité de travailler et que les femmes doivent multiplier par 10 leur dose de travail pour parvenir souvent au même niveau que les hommes.
Oui, il y a quelque chose auquel je réfléchis depuis le début du film et par rapport à vos propos, c'est comment nous, les femmes, on a intégré cet aspect misogyne et comment il fait aussi partie de nous et comment nous aussi, on est autant misogyne, même par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est un premier aspect. Et aussi, je réfléchis par rapport à ma fille qui a 15 ans, qui est sur les réseaux sociaux, machin, tout ça. Et donc, voilà, l'image de la femme, comment c'est montré... Bon, c'est un gros boulot derrière, voilà. Et la troisième chose aussi, c'était la sidération. Des fois, en tant qu'artiste, quand on nous dit ben, « vas-y, montre-nous ce que tu sais faire », mais on répond pas. Enfin, c'est une sidération, on est bloqué. Enfin, moi, j'ai rien à dire, je ne peux plus rien dire. Et je l'ai vu aussi la même chose sur d'autres femmes qui étaient artistes, qui jouaient. Vas-y, montre-nous ce que tu dois faire. Mais la pauvre, elle pouvait pas répondre. Et moi, j'étais là, je dis, vas-y, dis-lui quelque chose. Mais moi, je suis incapable de dire dans le même. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et c'est bien de commencer à en prendre conscience parce que. Les institutions peuvent aider, certes, mais c'est aussi beaucoup notre façon intérieure d'appréhender les choses qui peuvent les faire bouger, je pense.
Mais Joanne Chabassier, est-ce qu'on peut peut-être rebondir ce que vous avez dit, madame, sur la dernière partie, sur la façon d'être pétrifiée un peu. Ça questionne aussi la légitimité, en fait, et comment on ose prendre la place.
Alors, en fait, votre première remarque est aussi liée à la dernière. C'est-à-dire cette question de l'autocensure, une forme d'autocensure, d'absence de légitimité. Et donc du coup, alors on le voit, si je prends l'exemple du travail par exemple, c'est assez prégnant dans l'orientation scolaire et jusqu'au marché du travail, le fait que en fait, les femmes vont se positionner davantage à s'auto-évaluer dans leur incapacité à pouvoir prétendre à certaines activités. Et donc avant même de se retrouver face à une situation de sélection, elle se serait déjà auto-sélectionnée d'une certaine manière en s'excluant de la possibilité d'y prétendre. Bon, moi, ça me renvoie au processus de ce qu'on pourrait appeler la violence symbolique. La violence symbolique, c'est l'idée qu'en fait, on appliquerait par anticipation l'intériorisation de la violence qu'on observe, qui est bien réelle. Mais il n'empêche que, en fait, elle ne s'abat même plus de manière concrète, puisqu'en fait, elle est tellement intériorisée qu'en fait, l'individu l'applique à lui-même par anticipation d'être face aux éléments objectifs qui les obstacles réels auxquels il est confronté. Alors, il y en a qui ont quand même nommé très clairement l'expérience du plafond de verre. Hein. Et donc, ça veut dire que j'ai tenté et j'ai été arrêtée, mais il y a aussi toutes ces situations-là où en fait il y a une forme d'intériorisation de ces obstacles-là. Et ce qui est très difficile, c'est que souvent c'est renvoyé et c'est assez peu considéré puisque c'est renvoyé à des formes de subjectivité. Mais c'est la manière dont tu le ressens. Rien ne t'a amené dans mon attitude à ce que tu penses que. Mais parce qu'en fait, on est aussi les produits de notre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on est porteuse aussi à l'intérieur de nous-mêmes de l'histoire combative ou moins combative et puis des obstacles que les unes et les autres auxquels elles ont dû faire face. Donc ça veut dire que nos actions ne sont pas juste notre force intérieure et notre pouvoir mais aussi celle de la condition en fait de toutes les autres que nous observons et qui n'ont pas eu accès ou qui ont été invisibilisées dans leur propre trajectoire. Donc oui, on pourrait se dire il suffit d'être motivé. Mais non, en fait, il faut que nous, on soit motivés, mais il faut que toutes les autres autour le soient et que, en fait, les luttes qu'elles mènent soient victorieuses pour qu'en fait, on se dise, je sais que mettre en action, en fait, ce sera forcément victorieux. On a un petit peu de chemin.
Mais tout à l'heure, Rilke, vous avez parlé évidemment de l'importance de la place des femmes, mais aussi de la difficulté en tant qu'homme. Alors, il y a deux questions. Moi, ça me fait penser à deux choses. Déjà, Marie Buscato, dans le documentaire, elle dit quelque chose. Elle dit il faut
entrer, se faire reconnaître et se maintenir. Alors Eugénie, j'aurais bien aimé avoir un retour justement sur cette question de entrer, se faire reconnaître et se maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est un travail acharné du début jusqu'à la fin et que c'est jamais acquis pour les femmes en tout cas ?
Déjà de manière générale, et on en a parlé, être un artiste, bon, c'est précaire, c'est difficile d'y rentrer et de s'y maintenir évidemment. Moi, on m'a dit dès le début, Eugénie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, j'ai l'impression que c'est un sprint marathon. Voilà, c'est en flux tendu et en plus de ça, sur le long terme et en portant aussi une charge du coup qui est celle d'être une femme apparemment. C'est difficile et oui, ça l'est, c'est vrai. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. Je m'en suis rendu compte sur la longueur. Et mon corps même m'a envoyé des messages subliminaux. Et c'est étrange d'ailleurs que je sois là aujourd'hui, sachant ce que j'ai traversé ces dernières semaines et qui font écho un peu à tout ce dont on parle. J'ai commencé à faire une crise d'acné il y a 3 mois. Bon, la charge mentale d'une femme, c'est... On pense arrêter la pilule pour se libérer de quelque chose et au final, on finit par prendre un traitement tous les jours pour se libérer du symptôme après la pilule. Voilà, j'en suis pas encore libérée. Et je vais essayer de raccrocher les wagons. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant un travail sur moi-même, que ce que mon corps m'envoyait comme, comme symptôme, c'est « tu n'as pas exprimé quelque chose, tu as renfermé ». Une émotion si intense qu'à un moment donné, ton corps a réagi. Et voilà, c'est ma peau qui a parlé à ma place. Et je me suis rendu compte, en fait, il n'y a pas plus tard que cette semaine, de tous les moments où j'étais frustrée, où je me sentais seule, où j'étais en colère, et je ne me suis pas permis de l'être parce qu'on te dit tout le temps « t'as de la chance d'être ici ». T'as de la chance d'être ici, on t'a donné ta chance, donc voilà, reste bien sur ta lancée parce qu'à tout moment, tu peux perdre ta place. Et encore plus quand t'es une femme, parce qu'en plus de ça, on nous met en compétition les unes contre les autres. C'est Eugénie, t'as vu, il y a une meuf, elle est rousse comme toi et elle fait de la pop. Attention, vous pouvez pas être sur le même créneau, vous serez pas programmé dans le même festival, ça va être compliqué et pourtant... On a toutes les deux beaucoup de talent, on a des projets finalement assez différents quand on commence à écouter, à tendre l'oreille, parce qu'on n'est pas avec un projet d'image. Et en fait, c'est ça sans arrêt. Et donc moi, au bout d'un moment, je le dis, j'en ai marre. Je veux plus sourire, je veux plus me maquiller, je veux plus faire des courbettes. J'en ai marre de m'excuser d'être là. Et là, c'est ce que j'ai ressenti, ce ras-le-bol à travers ce documentaire. Ce besoin de se maintenir, c'est fatigant à la longueur. Et je crois que voilà, c'est au moment aussi où on choisit de lâcher prise qu'on inspire les autres, parce qu'on est dans une genre de détente et de confort qui impressionne. Et je pense qu'il faut vraiment, du coup, à partir de maintenant... Que voilà, ce soit viral, quoi. Venez en avance, sereine, en se disant, ça va le faire. Parce que c'est possible. Moi, je le vois, il y a plein de filles autour de moi qui sont artistes et qui ont réussi à passer le cap, ce plafond de verre. Il y a encore du chemin, en effet. Aujourd'hui, la seule représentation pop d'une artiste qui fonctionne, enfin, en fait, il y en a deux. Il y a Angèle, et elle est belge. Et il y a Aya Nakamura, et c'est pas de la pop. Donc bon, voilà, c'est nos grandes idoles aujourd'hui. Alors oui, c'est normal, hein, y a peu de place, mais quand même, quand en face, on voit qu'en fait, on a Maître Gims, Vienne et Kenji Girac. Enfin, venez, on en met un peu plus en haut, ça va un peu nous porter. Voilà. Bon, et là, je parle encore d'artistes qui chantent en français. Moi, c'est encore une autre problématique puisque je chante aussi en anglais. Je me suis mis carrément une balle dans le pied, apparemment, quand j'ai commencé à faire ce tournant. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre sujet.
Mais il y a aussi cette question des hommes avec les pères aussi. Peut-être on peut parler de ça. Donc, en sociologie, tu m'as dit que ça s'appelait l'andro. L'androcentrisme, donc en fait, c'est que plus il y a d'hommes, en fait, enfin, c'est que des hommes se voient dans un miroir, en fait. Donc plus il y a d'hommes, plus ils vont prendre des hommes. Et donc il y a un peu cette question-là aussi, qui est une asymétrie totale.
Oui, et puis en plus, ça crée un regard. Alors là, si on prend l'exemple du milieu artistique et culturel, ça crée un regard, une oreille particulière, qui fait que ça crée des goûts aussi et des attendus qui sont liés à cette culture masculine. L'exemple qu'on prend souvent, c'est l'espace public. Bon, bah, l'espace public, a priori, il est pensé par des hommes d'un certain âge qui n'ont pas de poussette à pousser et qui sont valides, hein. Sinon, l'espace public, il aurait une autre tête, quoi. Bon, bah, il faut s'imaginer que dans la science, c'est comme ça aussi. Donc, pendant très longtemps, on nous a expliqué que la différence homme-femme, c'était les lions et les lionnes. Ouais, enfin, peut-être qu'en fait, il y a d'autres modèles. Y a l'histoire, c'est les rois de France. Ouais, enfin, il y a quand même la moitié de la population qui n'est pas évoquée. Bref, bah, l'androcentrisme, cette idée-là, bon, bah, le milieu artistique et culturel, il n'y échappe pas. Et ce que ça produit notamment, enfin, quand on avait échangé, tu avais dit cette phrase de mais non, mais je vais quand même pas programmer, c'est nul un peu, c'est moche ou c'est pas.
C'est qu'il y a un programmateur de festival qui m'a dit, moi ça me fait chier les quotas parce qu'en fait je me retrouve avec des femmes nulles.
Voilà.
Et du coup, moi, j'ai dit à Joanne, mais qu'est-ce que. Enfin, c'est quand même la question de la nullité, parce qu'on est obligé de prendre des femmes nulles, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a des quotas. Et toi, tu m'as tout de suite dit, oui, mais avant tout, c'est un modèle.
Oui, avant tout, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça va produire de magique, enfin, je sais pas, moi, je ne suis pas professionnelle du milieu artistique et culturel. Donc, en fait, je suis spectatrice. Donc, je viens recevoir quelque chose, quoi. Et là, je me dis, mais en fait, ce qui est ultra magique quand je vois des femmes sur scène, c'est parce qu'en fait, ça me fait rêver. Et là, être dans... c'est ce que disait un peu à un moment, il y avait une... je crois qu'elle était programmatrice, peut-être. Et elle disait, mais en fait, dans nos critères qu'il y a de la diversité, de la situation géographique, de comment les gens sont dans le projet, etc., l'égalité femmes-hommes, ça devrait être au niveau... Bah ouais, parce qu'en fait, juste, c'est qu'en fait, là, la présence de femmes sur scène, ça crée une représentation de quelque chose qui va faire rêver d'une autre manière. Et moi, je ne sais pas trop si, en fait, savoir, je sais pas moi, l'intensité de la basse ou la rythmique ou j'en sais rien, ou des choses qui seraient plus techniques dans la musique, bah, c'est peut-être pas ça, en fait, l'élément prioritaire pour programmer. Donc, c'est bien que le goût s'est créé aussi, a été entretenu autour d'une culture bah, qui, en fait, se reproduit à l'identique et donc, du coup, qui crée une légitimité dans ce qui est beau et ce qui est moche. J'ai quand même l'impression claire, sans revenir à des fondements... philosophique, c'est justement on touche du doigt le fait que la beauté c'est pas facile à définir quoi.
Un objet voilà. Philosophique assez abyssal. Et en tout cas justement sur la question de l'art, alors on a dit il y a deux domaines un peu qui questionnent ça, c'est la politique et l'art, c'est les deux seuls domaines où en fait le génie et le talent permettent en fait de balayer toute considération de droits humains et aussi de finalement ces questions d'égalité homme-femme parce que il y a que dans l'art qu'on voit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste et faut-il séparer l'homme de l'artiste, c'est des questions qu'on se pose pas par exemple pour un boulanger. Faut-il séparer le boulanger de sa façon d'être avec les femmes, avec ses clientes. Enfin, c'est des questions qu'on ne se pose pas, en tout cas. Et donc ça, c'est ce milieu du travail qui est dans ce rapport à l'homme. Toi, tu l'as vécu, Eugénie, tu as été majoritairement entourée d'hommes. Aujourd'hui, tu as trouvé des réponses aussi. Moi, je trouvais ça intéressant de penser aussi l'après. C'est que tu as décidé de t'entourer de personnes bienveillantes avec qui tu es bien, et ça marche très bien. Et c'est une sorte de porte de secours que tu as ouverte et qui fonctionne parfaitement, de t'entourer que de gens que tu veux t'entourer.
Oui, alors après, c'est un chemin, évidemment. On ne va pas tout de suite trouver les personnes bienveillantes. Je pense que le plus important, c'est surtout d'arriver à être soi-même, d'être le plus proche de ce qu'on veut être, pour pouvoir aussi attirer les gens qui nous ressemblent. Enfin, c'est une théorie dans laquelle je crois. Et y a un moment aussi où j'ai su faire le tri parce que bah avec le temps on voit tout de suite les personnes qui vous laissent aussi la parole et moi en l'occurrence maintenant je travaille avec déjà deux manageuses une qui s'appelle Ariane Tamalet et qui travaille dans une structure et qui est vraiment du milieu et l'autre c'est ma sœur voilà
qui n'est pas du tout du milieu. Bon, après, c'est particulier avoir un manager en tant qu'artiste, étant donné qu'on est souvent confronté à des problèmes de confiance. On a souvent tendance à s'orienter vers quelqu'un de notre famille parce qu'on sait qu'ils vont forcément servir nos intérêts. Mais là, en l'occurrence, c'est une femme, donc en plus de ça, je me sens comprise. Donc il y a déjà ça, il y a autour de moi, voilà, de plus en plus de filles artistes avec qui j'ai créé des liens et avec qui on se sent à l'aise aussi de discuter de nos carrières. Et
mais
ça
vous
nous
n'êtes
permet...
pas en compétition ?
Mais non, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est absolument pas en compétition et qu'au contraire, on s'élève parce qu'en fait... On a besoin aussi, voilà, de lâcher tout ça. On a besoin de pouvoir évacuer toutes ces frustrations. Et c'est bien de le faire entre nous parce qu'en plus, on peut se donner des conseils. Voilà, on crée aussi une confiance collective. Et il y a aussi, voilà, des alliés dans tout ça. Et moi, je travaille en collaboration avec un réalisateur qui s'appelle... Alors, réalisateur, c'est producteur plutôt. Donc c'est celui qui s'occupe de toute la partie instrumentale et qui compose avec moi, qui s'appelle Teamsters, c'est son nom d'artiste aussi. Et lui, il est super en fait parce qu'il est à l'écoute, parce qu'il me, des fois il me force à faire par moi-même et j'aime bien parce qu'en fait ça veut dire qu'il a conscience aussi que bah on se l'autorise pas et donc du coup il te dit si tu es capable tu vas voir. J'ai une anecdote qui est assez cool, c'est là je suis en train de produire mon prochain projet et on était en studio et je lui dis j'ai une idée de basse mais je sais pas faire de basse. Il me dit mais tu sais faire de la guitare, je fais oui mais c'est pas le même instrument. Il dit oui mais bon une ligne de basse c'est une ligne de basse. Et il me dit tu sais quoi, je vais aller chercher à manger, t'as une demi-heure, tente et après on enregistre. Et il est parti, et j'ai pris la basse, et oui, bah, en effet, en une demi-heure, j'avais chopé le truc, et puis ensuite, on a enregistré. Alors forcément, c'était plus long que si lui l'avait fait, parce que lui, il a l'habitude de le faire, mais le fait qu'il me pousse à le faire, je me suis rendu compte, bah oui, en fait, c'était hyper rapide, je sais pas pourquoi je me suis pas autorisée à le faire, sûrement parce que j'avais peur de passer pour une nulle. Et en fait, je pense que c'est un sport, en fait. Il faut vraiment... entretenir ce réflexe et s'autoriser un peu à se mettre en danger. Alors déjà que c'est ça le métier d'artiste, c'est tout le temps se mettre en danger, et ben il faut le faire encore plus en backstage en fait, en coulisses, quand on est en train de composer, quand on est en train aussi de parler de son projet à des professionnels qui vont peut-être nous financer. C'est vraiment muscler, je pense, cette compétence de s'autoriser à être la personne qu'on aimerait être, en fait, c'est tout, c'est juste ça.
Est-ce qu'il y a des retours dans le public par rapport à ça ?
Merci. Juste du coup, quand tu dis, Eugénie, que là, le fait de t'avoir un peu, entre guillemets, forcé à essayer justement... de ce que toi tu entendais, de t'autoriser à le faire. C'est marrant parce que j'ai vécu un peu la même chose avec la composition. J'écrivais depuis vraiment des années, c'est-à-dire mon premier groupe, c'était en 2000, c'est moi qui écrivais les textes. J'avais tout le temps les mélodies chantées, mais je ne sais pas, la personne qui retranscrivait n'arrivait pas forcément et faisait sa propre musique, mais bon, peu importe. Et mais j'ai laissé... parce que ben voilà, j'ai fait d'autres choses, hein, ce que un peu la société attendait de moi. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, la maison, tout ça. Et un jour, cette passion est revenue. J'avais toujours fait un peu de musique. Et je suis devenue intermittente il y a 10 ans. J'ai essayé de faire un groupe où, là encore, j'étais à l'écriture. Et ça a splitté parce qu'en fait, la personne qui s'occupait de composer, on s'est séparés, le groupe a fini. Je me suis dit, purée, mais jamais je vais y arriver en fait à faire mon truc. Et le Covid m'a aidée. Enfin, cet isolement a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais t'as été au conservatoire, t'as fait de la FM. À un moment donné, tu sais enchaîner des accords. Enfin, t'es pas. Et en fait, je me suis autorisée à composer. Et du coup, je suis hyper fière de moi parce que là, pour mon projet, je compose aussi pour les cuivres, comme une deuxième voix, tu vois, c'est un contre-champ. Et en fait, je suis hyper fière de ça et je me suis dit, mais enfin, voilà, tu étais capable. Et je pense que c'est aussi, en termes d'éducation, de dire, en fait, fille ou garçon, mais peu importe en fait le genre, on est capable. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant et d'oser, peu importe le genre, oser. Bon, bien sûr, souvent on se dit que pour nous c'est un peu plus dur, mais il faut pas hésiter. Et puis l'âge aussi n'est pas, ne devrait pas être un problème. Voilà, c'est un petit plus.
Merci. En fait, j'aimerais bien rebondir aussi sur la question du temps, parce que, alors peut-être le temps presse aussi du côté de. Bon. Alors, il y avait la question aussi évidemment du bénévolat ou même du temps. Comment est-ce qu'on trouve du temps? Parce qu'on sait que le processus de création est long, que ça soit dans l'art, dans la recherche, enfin dans tous les milieux qui demandent voilà d'aller s'enrichir, en tout cas se nourrir pour travailler sur ses propres projets. Alors. On sait quand même qu'on a parlé de la charge mentale. Alors la charge mentale, elle prend plein de formes. La gestion du temps et du bénévolat et aussi de comment est-ce qu'on fragmente le temps entre les attentes sociales, familiales. Voilà, toute la question de la temporalité. Toi, Joanne, en tant que sociologue, qu'est-ce que ça dit justement de la société dans laquelle on est? Le temps des femmes?
Eh ben, oui, alors tout à l'heure, même par rapport à la remarque tout à l'heure sur la question de la reconnaissance de la contribution des femmes à l'art et ce statut un peu des muses, quand même, même ça a été nommé ici, en fait, les femmes, leur contribution, elle est gratuite puisqu'en fait, on les professionnalise pas, on considère que leur contribution, elle n'est pas monnayable. Bah, évidemment, ça renvoie à cette question de la place de l'économie du travail des femmes, en fait. De manière générale, dans le système économique dans lequel on est, ou l'économie capitaliste, en fait, elle nomme où chaque activité doit s'inscrire dans un registre de valeur qui est celui du marché. Et que donc, du coup, bah, en termes de production de richesse, bah, il faut que ce qui est produit soit reposé dans une logique de marché. Et là, bah, en fait, quand même, il y a l'intériorisation du fait que s'il y a bien un travail qui est gratuit et qui n'est pas nommé comme quelque chose qui serait enrichissant pardon, pour le collectif, bah, c'est par exemple le travail domestique. Donc, de fait, ça ne devient pas un élément qui est comptable. Alors qu'en fait, quand on gratte un peu, bah, en fait, si on revient sur des registres de ce que c'est que la richesse, exemple le PIB, en fait, le travail domestique, c'est entre 20 et 30% du PIB. Mais en fait, ça n'apparaît pas dans la culture capitaliste où en fait, on n'est pas sur ce registre-là dans la production de richesse. Donc, évidemment, par effet... domino, bah, au moment où en fait on va essayer de justifier économiquement quel est le temps nécessaire à la création, bah, on n'est pas sur le registre de ce qui est valorisé et valorisable sur un marché, et donc du coup encore moins quand on dit bah oui mais en fait là j'ai des enfants et donc du coup ce temps de création là il est aussi, il s'inscrit aussi dans l'accumulation avec le temps de charges domestiques, de charges éducatives, de charges émotionnelles, de devoir gérer aussi l'harmonie et l'équilibre dans un foyer, etc. Bon, bah, ça vient d'une certaine manière le bout de la chaîne où les situations précaires sont d'autant plus importantes, puisqu'en fait, ce temps invisibilisé sur le registre économique fait qu'il n'y a absolument pas comptabilisé dans les besoins économiques que les artistes y vont avoir dans leur réalité de création, quoi.
Et il semblerait aussi que la question justement de l'égalité homme-femme, ça soit pris aujourd'hui surtout en main par des collectifs qui font ça bénévolement et gratuitement. Alors que c'est peut-être des questions qui devraient être prises par des institutions et de manière... Enfin, la Ruisselle, c'est quand même génial parce que vous êtes salariés toutes les deux. C'est quand même là, pour le coup, on est dans du bon côté de la barrière, on va dire. Mais sinon, c'est vraiment des choses qui sont faites de manière encore bénévole. Et ça questionne aussi, voilà, une fois de plus, le temps gratuit des femmes. Parce que les femmes, elles font tout gratuitement. C'est bien connu. Comment toi, parce qu'on peut parler du statut d'intermittent. Hein, le statut d'intermittent, c'est un statut qui est génial une fois qu'on l'a. Encore faut-il réussir à l'avoir ou à moi à
et à le conserver.
Et à le conserver.
Tous les 12 mois, quand même, à ce que j'ai pour mon nombre d'heures.
Voilà. Et puis, en plus, ça, là, on parle vraiment des notions du spectacle vivant. Mais je pense... par exemple, moi qui bosse plutôt du côté du documentaire radiophonique, par exemple, il n'y a pas, ça n'existe pas. Hein. Donc, ou les arts, ou les auteurs, voilà, c'est encore un autre domaine. Toi, voilà, la question du temps, de la temporalité, de la gratuité, comment ça résonne en toi?
Alors moi, j'étais très très nulle sur ce sujet. C'est la première année depuis que j'ai commencé que je suis intermittente. Voilà. Donc là...
Ça fait combien d'années que tu as commencé?
Ça fait... 7 ans. Donc, alors du coup, je vivais sur les avances des maisons de disques.
Mais encore une fois, c'est pas du tout un train de vie simple. J'ai eu de la chance d'avoir un bon entourage qui pouvait me mettre en sécurité. Et c'est pas du tout le cas de la plupart d'entre nous. Et je pense que si ça avait pas été comme ça pour moi, j'aurais sûrement dû faire complètement autre chose. Donc je fais partie des chanceuses. Mais ce truc de travail gratuit, c'est intéressant parce que ça m'est arrivé tellement de fois qu'on me dise « Eugénie, toi, t'as une belle voix et tu fais les armes super vite, tu veux pas m'envoyer juste une idée et tout. » Et moi, je faisais ça en me disant « Mais oui, bien sûr, avec plaisir. » Mais en fait, dans beaucoup de travail de freelance, on a ce problème-là. Mais en fait, c'est surtout que le fait d'avoir continué à le faire, je me dévalorisais à travers cette action. C'est affreux de dévaloriser... son talent. Déjà que c'est difficile d'être payé en tant que compositeur parce qu'il faut savoir qu'en fait, moi par exemple, je top line, ça veut dire que je compose la mélodie principale en fait, d'une chanson, celle qui est chantée par le chanteur, chanteuse lead. Et en fait, je fais beaucoup de sessions studio, donc je suis appelée en fait pour être mélodiste, plus ou moins. Et. Je ne suis rémunérée que si la chanson, elle sort et qu'en plus, elle génère des droits, quoi, des droits d'auteur compo. Donc, avant qu'il y ait une chanson qui sorte, parce qu'il faut savoir que le nombre de chansons qui sont faites et le nombre de versus le nombre de chansons qui sortent, je pense que vous pouvez vous imaginer, c'est minime. Donc, c'est hyper précaire. On n'est pas du tout valorisé. À ce niveau-là, il faut en faire des centaines et des centaines et des centaines pour réussir à en faire vraiment une, comment on peut dire, une économie, j'ai envie de dire. Donc on est obligé de multiplier, en plus de ça, ses talents, d'où l'intérêt du coup de valoriser absolument tout ce qu'on fait, que ce soit une petite voix qu'on prête, des paroles, de la compo, une ligne de basse, n'importe quoi. C'est important de se rendre compte de la valeur du travail qu'on fournit et du temps qu'on y met. Je pense qu'on ne fait pas assez de suivi de temps de travail dans nos milieux. Il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas en fait, de cadre vraiment. On se construit son propre cadre ou alors les opportunités qu'on a construisent notre cadre professionnel. Et on fait pas de suivi de temps. On fait des heures sup en fait tout le temps. Moi je travaille le week-end, je travaille le soir en semaine, je travaille à n'importe quelle heure. Mais c'est aussi hyper flexible parce que je gère moi-même mon emploi du temps. Mais du coup, vu que depuis toutes ces années je ne suis pas en fait le temps que je mets à faire les choses, je ne peux pas me rendre compte aussi de la valeur que mes missions ont, en fait, parce que je ne me rends pas compte du temps que j'y passe. Mais ce temps-là est précieux.
Mais quand je t'ai eu au téléphone et qu'on a parlé de tout ça, tu m'as dit une phrase que j'ai trouvée assez intéressante. Tu m'as dit « Je me suis tellement fait à l'idée que ce travail était difficile que du coup, t'emmagasines tout en disant « De toute façon, c'est un boulot qui est difficile, donc on accepte cette difficulté comme si c'était... normal en fait et qu'il n'y avait aucune alternative possible. »
Oui, c'est un peu la fatalité. On t'arrive dans le milieu, on te dit ça va être difficile. Moi, la première fois que j'ai dit que je voulais être chanteuse, on m'a dit c'est pas un vrai métier, déjà. Et ensuite on te dit, alors il y a peu d'élus, et ensuite on te dit ça va être difficile, va falloir s'accrocher. Et ensuite quand tu dis comment ça arrive, on te dit t'as de la chance, reste là où t'es. Et bon, voilà, donc ça encourage pas à penser que ce qu'on fait est légitime et que oui, en effet, ça peut être vécu aussi d'une manière quand même un peu plus saine, quoi. Je pense que j'ai vraiment ras-le-bol de cette tension où tu te sens tout le temps en péril, quoi. C'est nul, ça, c'est pas du tout productif, pas du tout. Comment on peut être productif si on est tout le temps tendu, quoi? C'est pas possible.
Alors peut-être on va essayer de penser un peu l'après, vu que c'est la fin. Peut-être je vais redonner le micro à Ruissel, qui a peut-être des idées pour la suite. Comment est-ce qu'on envisage le futur après ce moment d'échange tous ensemble?
Oui, du coup, Ruissel pourrait répondre à certaines des problématiques et des besoins qui sont nommés ici, notamment sur la légitimité. Je pense que le fait de se retrouver ensemble, de créer du lien, de faire des moments, des temps de rencontre et des suivis individuels. C'est ce qu'on va proposer. Ça va permettre, j'espère, aux femmes artistes de se sentir légitimes dans leur pratique. Parce que, en fait, c'est comme tu le nommes, Eugénie, c'est hyper fatigant d'être tout le temps dans cette autocensure, de se dire mais non, est-ce que je peux faire ça? Comment je le fais? Est-ce que je suis légitime à faire ça? Et je pense qu'en étant une oreille, en étant à l'écoute et en créant aussi une sororité, un groupe, on va pouvoir, j'espère, pallier à ce problème de la légitimité. Et puis aussi mettre en avant, en effet, la juste rémunération. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur. Donc pas de gratuité, c'est un cheval de bataille. Voilà, important, les bonnes pratiques. Et je te passe le micro, Monique, pour présenter les autres.
Oui. Ce qu'on a aussi envie de faire, c'est que nous souhaiterions, et nous sommes en train de récolter des informations sur toutes les artistes corréziennes, afin de pouvoir créer en fait un annuaire, du coup, qui sera très représentatif, on espère, de toutes les pratiques artistiques qui sont sur le territoire, les mettre en lien si elles le veulent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Et ensuite, c'est au cours des rencontres aussi, réfléchir autour des freins qui peuvent être rencontrés quand on est artiste femme et comment pouvoir les résoudre. Voilà.
Juste aussi pour rajouter qu'on a des enjeux différents puisque, comme tu le disais, on est dans un cadre de ruralité. Et moi, c'est une question, en tout cas, que je trouve intéressante. Comment, ça veut dire quoi, percer en tant qu'artiste et est-ce qu'on peut le faire en ruralité? Et est-ce qu'on peut ancrer son travail artistique en s'intégrant dans un territoire particulier? Est-ce que c'est nécessaire de passer par les grandes villes? Comment on peut faire exister une pratique vraiment sur un territoire? Et je trouve que c'est un des enjeux aussi qui est contemporain et qui questionne aussi l'écologie et nos déplacements.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose pour terminer? Oui. Ah, deux.
Je suis très contente d'apprendre l'existence de Ruissel, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que sur le territoire national, il y a plein d'autres dispositifs, il y a plein de choses qui se font. À côté, pas très loin de la Corrèze, en Charente, il y a le collectif Les Drôlesses Musiciennes qui a fait une étude justement sur les pratiques musiciennes en Charente et qui a montré que c'était les mêmes pourcentages que sur le territoire national au niveau des artistes présentes sur scène. Et c'est un super travail qui a été fait. Elles encouragent aussi du coup la pratique musicienne à l'école. Et ça, c'est super parce que du coup, comment on fait quand on arrive en tant que jeune collégienne, en tant que jeune lycéenne, à pratiquer des instruments qui sont dits masculins? Et donc là, ils sont en Charente, il y a plein de dispositifs qui sont en train d'œuvrer pour essayer d'éviter ça. Voilà, et ça se passe plutôt bien. Sinon, en termes de réseau, il y a le réseau majeur à l'échelle nationale qui regroupe toutes les professionnels et toutes les artistes dans la musique. Et je trouve ça super que vous faites ça en Corrèze. Moi, je viens de la Haute-Vienne. Du coup, il n'y a pas grand-chose encore sur le territoire. Et sinon, il y a aussi plein d'autres petites choses qui se font. Il y a des festivals comme le Women Metronome Academy Festival à Toulouse, où on va programmer que des femmes. Il y a aussi ce dispositif aujourd'hui avec les femmes sans mail, les femmes s'engagent. Et ce que je voulais rajouter d'autre, il y a aussi les programmateurs, les programmatrices qui œuvrent à avoir des artistes sur scène de plus en plus femmes. Et c'est le cas, par exemple, avec la programmatrice du Moulin Rouge à Paris, qui œuvre beaucoup et qui a fait beaucoup de travail dans ce sens. Je ne me souviens plus de son nom, mais voilà, c'était pour rebondir sur les pratiques enthousiasmantes qui arrivent et le travail qui est fait aujourd'hui.
Merci. Et rien que d'avoir ce débat, moi, je trouve ça super enthousiasmant. Benoît, Maud.
Justement, moi, j'avais envie de dire que j'étais hyper content qu'on soit là pour parler de ces questions-là. Pour moi, c'est vraiment important. Je déplore peut-être qu'on soit pas beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et justement, j'aurais envie qu'il y ait plus d'hommes qui soient là pour entendre, pour constater, pour analyser, pour se projeter. Il y a un point que je trouvais hyper important dans ce qui a été dit aussi dans le documentaire, c'est que lutter en direction de l'égalité homme-femme, de la parité, finalement, c'est aussi commencer à lutter contre toutes les formes de discrimination. C'est un point de départ, donc je pense qu'il est aussi hyper important. Et il y a un autre truc que je trouvais assez intéressant, et d'ailleurs qu'on réfléchit, nous, dans le cadre de notre programmation et de la représentation des artistes féminines sur scène, il y a un intervenant qui dit dans le docu qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas le revendiquer. Et nous, je crois qu'on va arrêter de le revendiquer. Nous, on va juste le faire parce que c'est normal. Hein.
Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Des Lendemains qui chantent et merci à l'Empreinte. Merci à Joanne Chabassi, sociologue, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Eugénie, du coup, d'avoir été là et de nous avoir partagé toute ton expérience. J'en ai encore des frissons.
Mais t'es qui? Je te reconnais plus quand tu parles. Tes yeux s'allument et ta rage détruisent tout sur ton passage. Comédie, une fois de plus par un drame. T'as les rimes, on sait tu calmes tous les fous, les mythomanes. Je t'ai dit chute, je t'ai dit stop. L'alcool peut vous refaire le portrait qui t'arrête après les deux grammes. T'as l'air absente à travers mes larmes. Mais je t'ai dit chute, je t'ai dit stop.